Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat électoral en direct des studios de Radio Présence et en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées et la Dépêche du Midi. Nous vous proposons aujourd'hui un face-à-face entre les deux candidats finalistes aux élections législatives pour la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Ce débat sera animé avec Arnaud Paul, le responsable du groupe La Dépêche et La Nouvelle République pour le département des Hautes-Pyrénées. Alors pour ce premier débat, nous accueillons Marie-Christine Sorin, candidate du Rassemblement National RN, qui a obtenu 34,09% des voix au premier tour, et Sylvie Ferrer, candidate du Nouveau Front Populaire, avec 29,49% des voix. Il est à noter que Jean-Bernard Saint-Pastous, le candidat d'Ensemble pour la République, qui avait obtenu 24,84% des voix et qui était qualifié pour le second tour, a décidé de retirer sa candidature sans toutefois donner de consigne de vote. Arnaud Paul.
Bonjour à tous, Madame Ferrer, bonjour. Donc vous êtes députée sortante de la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Dimanche, à l'issue du premier tour, vous terminez seconde. Comment analysez-vous ce résultat ?
Alors, déjà, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui ont voté pour moi et donc qui ont mis le Nouveau Front Populaire au second tour de ces élections législatives. Je tiens aussi à saluer l'attitude de Jean-Bernard Saint-Pastous qui s'est désisté et donc qui a respecté le Front Républicain. Nous étions engagés, nous, au Nouveau Front Populaire, à respecter ce Front Républicain, et la plupart des candidats de notre groupe se sont désistés quand ils arrivaient en troisième position. Donc voilà, donc je salue son attitude. Alors, responsable.
Il s'est désisté, mais il n'a pas donné de consigne de vote claire. Que pensez-vous ?
Moi, j'en appelle aux électeurs de Jean-Bernard Saint-Pastous et je leur dis... vous avez le 7 juillet une décision importante à prendre. Il y a aux portes du pouvoir de notre pays la possibilité d'avoir l'extrême droite, avec tout ce que ça représente en termes de fracture sociale, de racisme, de xénophobie, de tri social entre les gens de couleur. Donc je leur dis, il faut prendre une décision responsable et je représenterai l'ensemble des Hauts-Pyrénéens si je suis élue.
Madame Sorin, bonjour. Vous êtes candidate pour le Rassemblement National. Alors, vous étiez déjà candidate en 2022. Dimanche, vous avez plus que doublé votre score de 2022. Comment vous recevez, en fait, ce score très important, de plus de 34%?
Alors, avec humilité, parce que ce n'est pas sur ma petite personne, mais vraiment avec joie. Avec joie pour notre département et avec joie pour la France, de voir que le peuple s'est enfin levé, que le peuple a enfin compris qu'il faut le changement, qu'il faut une autre manière de gouverner et qu'il y a peut-être un espoir. Et j'espère qu'on va prolonger ça là pour dimanche prochain, cet espoir qui s'est levé d'un coup d'une autre gouvernance. C'est exactement ce que les gens nous disent toujours. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, quelle catastrophe aussi. Et maintenant, il faut essayer autre chose. Vous l'entendez, vous aussi, dans les rues.
Alors, est-ce que vous pensez que vous avez fait le plein des voix au premier tour? Finalement, quand on regarde les résultats, est-ce que vous avez encore des réserves, voire de voix pour le second?
Oui, alors là, je serai peut-être moins modeste. J'ai des réserves de voix parce que je suis très ancrée dans ce terroir. J'ai vécu en montagne, j'ai vécu les souffrances des bergers de montagne. Je suis chasseresse, donc je continue à les fréquenter au moins tous les week-ends, si ce n'est trois fois par semaine, aussi bien ceux du plateau, ceux des coteaux, que ceux de la Barousse. Ce sont mes trois points forts. Et donc, je suis connue comme étant une personne respectable. Et lorsqu'on a essayé de me dérespecter, comme on dit en créole, il y a eu l'effet inverse. Le montagnard, il est comme ça. Hein. Lorsqu'on fait nos repas de chasse, et des fois on dit le montagnol, il prend son couteau, il tape son couteau, Il dit parfois les montagnols sont là, n'est-ce pas, lorsqu'on chante. Et ils n'aiment pas qu'on les tourne boule, qu'on leur dise n'importe quoi.
Alors,
alors j'ai confiance.
Vous parlez de dérespecter. Vous avez été épinglé par la presse nationale notamment sur des propos que vous avez écrits sur Twitter qui font référence effectivement et qui portent des jugements sur les civilisations et sur les religions. Comment vous réagissez à ça ?
Alors premièrement, j'ai employé deux personnes, deux jeunes qui sont forts en informatique. Tout le monde a cherché ce fameux tweet, personne ne l'a vu. Il paraît que c'est une capture d'écran. Si, même si c'était une capture d'écran, rien ne me dit que la citation est complète. D'autre part, on ne met pas sur une capture d'écran sur la photo d'une personne. Si on veut faire une capture d'écran, on met le texte sous l'image. Et il me semble effectivement que j'avais tweeté des choses peut-être un peu dures sur la lapidation des femmes. Mais comme je l'ai écrit au journal national en question, repris hélas par les autres médias comme étant du pain béni, mais j'ai écrit à Libération un droit de réponse pour remettre les choses en place, pour dire que je ne veux pas qu'on s'écarte du sujet qui est la lapidation des femmes par les ayatollahs, par les islamistes. Et Libération a répondu par un mail qu'ils publieront mon droit de réponse s'ils le veulent bien. Je suis désolée pour la démocratie. Je lisais Libération quand j'étais étudiante. C'était un journal intellectuel respecté. Et ce n'est pas seulement à mon sujet. Mais pendant toute cette campagne, ils se sont employés à faire des ragots, des attaques très personnelles. Et encore ce matin, lorsque j'ouvre les différents journaux sur le net, c'est toujours des attaques personnelles de Madame Intel qui a dit que son dentiste était marocain, Monsieur Intel. Alors on n'aura plus le droit de dire je vais acheter une bouteille de gaz. Il y a des mots interdits, le mot gaz, etc.
Il y a quand même des formules et des mots qui font mal. On est quand même un pays où il y a des gens d'origine différente. C'est aussi le vivre ensemble qui est quelque part écorné avec des formules peut-être à l'emporte-pièce. Vous avez une audience en tant que candidate politique, donc ce que vous dites n'est pas neutre. Est-ce que vous prenez conscience quand même que ça peut porter, ça peut faire du mal à des gens
aussi ?
Si
vous me reparlez de la lapidation, j'emploierai peut-être d'autres termes, mais ça sera peut-être tout aussi dur. Si vous me soutenez et que vous arrivez à me prouver que la lapidation est un acte humaniste et d'humanité, alors là, oui, d'accord, je m'excuserai. Mais tant que ce n'est pas le cas. Maintenant, ce matin, quand je lis que Madame Marine Le Pen est une pute, que la mère de Jordan Bardella est une pute, et qu'on chante ça sur YouTube, je pense que c'est tout à fait aussi grave. Je suis féministe. J'ai été féministe sur les barricades en 68. Je suis restée féministe de cœur. Et dès qu'on touche à une femme, que ce soit les islamistes, que ce soit ceux qui ne respectent plus rien, je me lève et je suis en colère.
D'accord. Alors on va peut-être attaquer maintenant le débat et les questions de fond. Philippe, vous...
Oui, sur le pouvoir d'achat, sujet numéro un. Vous avez un peu de retard, madame.
J'aimerais quand même revenir sur les propos de madame Sorin concernant ce propos qu'on entend régulièrement. On a eu la droite, on a eu la gauche au pouvoir et ça n'a rien donné pour les gens. En fait, non, madame, on n'a pas eu la gauche au pouvoir. On a eu, à un moment donné, un gouvernement sous M. Hollande, qui a fait une politique, en fait, à l'inverse de sur lequel il s'était engagé, c'est-à-dire pour lequel les gens l'avaient élu. Donc il n'a pas respecté, en fait, ses engagements. Donc on n'a pas eu cette politique de gauche au moment du mandat de M. Hollande. Et donc derrière, nous, avec l'Union populaire, il a fallu rattraper tout ça. Et on est arrivé à faire en sorte à remettre dans la société des propositions, en fait, vraiment de gauche, qui nous ont permis, d'ailleurs, de faire 22% avec le candidat Jean-Luc Mélenchon, faire 22% en 2022 à l'élection présidentielle. Donc c'est clair qu'il a fallu rattraper cette trahison, je dirais, et ça a été difficile. Mais on y est arrivé, et aujourd'hui, je suis la représentante du nouveau Front populaire avec un programme de gauche que nous appliquerons dès les premiers jours, notamment sur le pouvoir d'achat, avec des propositions d'urgence qui est le blocage des prix. Donc blocage des prix de l'alimentation, de l'énergie, du carburant.
On va en parler dans le sujet sur le pouvoir d'achat. Vous avez quelques minutes de retard, Madame Ferrer,
Par rapport au féminisme, je voudrais revenir quand même aussi sur l'IVG, parce que l'IVG dans la Constitution, le groupe du Rassemblement National, qui est représenté ici par Madame Sorin, c'est pour une part opposé à ce qu'on le mette l'IVG dans la Constitution. Une grosse part du groupe a voté contre. Et donc ensuite me dire qu'elle est féministe, et il faut regarder aussi ce que porte quand même le groupe du Rassemblement National en termes de féminisme. Mm-hmm. C'est effarant.
Nous allons donc commencer débat sur
je saurais répondre à travers ma réponse.
D'accord.
La réponse à travers la réponse.
Le pouvoir d'achat. Ben c'est un enjeu crucial, je crois, pour les électeurs. Toutes les formations politiques promettent d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, notamment par l'augmentation des salaires ou le blocage des prix du carburant, de l'énergie et des produits de consommation courante. Les prix de l'électricité ont augmenté de 8,6% pour les tarifs normaux, de 9,8% pour les tarifs heure creuse, heure pleine, le 1er février 2024, alors que le bouclier tarifaire va disparaître. Les prix du gaz ont augmenté de 25% en 2022 et les carburants restent chers, affectant particulièrement les populations rurales comme celle des Hautes-Pyrénées, dépendantes de la voiture. L'inflation des produits alimentaires a ralenti après une forte augmentation après la guerre en Ukraine. Quelles sont vos solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et particulièrement pour notre département ?
Alors, les mesures que nous proposons en fait au niveau national vont s'appliquer forcément sur les Hauts-Pyrénées aussi. Hein. Donc, par exemple, le blocage des prix. Le blocage des prix, c'est qu'il y a une mesure d'urgence en fait à prendre dès les premiers 15 jours de l'arrivée au pouvoir du nouveau Front populaire. Blocage des prix de l'alimentation, des produits de première nécessité, de l'énergie, du carburant. Et d'ailleurs, les députés du Rassemblement national ont voté contre cette proposition que nous avions faite lors de notre niche parlementaire. Il y a l'augmentation aussi du SMIC qui est incontournable aujourd'hui. Le SMIC, il est à peine 200 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Donc on propose de mettre le SMIC à 1600 euros net par mois. Ça sera fait par décret. Donc ça, c'est le salaire du privé. 10%
ça,
de...
Faire, oui. Justement, l'annonce de la hausse
du salaire des fonctionnaires aussi.
Oui, inquiète beaucoup les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous leur répondez pour les rassurer ?
Alors déjà, je voulais préciser que le programme que nous proposons, il a été chiffré. Il a été chiffré. Donc à chaque dépense correspond une recette. La mesure en fait d'augmentation du SMIC à 1600 euros, c'est une mesure qui a été aussi réfléchie par rapport justement aux plus petites entreprises. Et donc ce qu'il est prévu de faire, c'est de mettre en place une caisse de péréquation, de manière à faire participer notamment les plus grosses entreprises de notre pays qui aujourd'hui ne payent pas forcément l'impôt sur les sociétés à la hauteur à laquelle elles devraient le payer. Et donc on part du principe que les gros doivent payer gros et les petits payent petit. Donc cette caisse de précaution, elle viendra en soutien de ces entreprises le temps, en fait, que le coup de pédale qu'on aura remis dans l'économie par le biais de l'augmentation des plus bas salaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on augmente les plus bas salaires, c'est tout de suite remis dans l'économie réelle. 80% aujourd'hui de l'économie française, c'est du franco-français. C'est-à-dire les gens, quand on augmente leur salaire, ils le remettent dans la consommation de proximité. Le plus gros chèque que j'ai fait, c'était à l'artisan qui a fait le toit de ma maison. C'est du local, c'est des emplois qui sont non délocalisables. On a besoin, je pense aux femmes, puisqu'on parlait des femmes qui sont notamment dans ces métiers essentiels près de nos personnes âgées, les auxiliaires de vie, les AESH, tous ces métiers qui sont aujourd'hui mal payés. Il faut absolument remonter les salaires de toutes ces personnes qui sont très importantes, et notamment en milieu rural.
Pour une personne qui est chef d'entreprise et qui a aujourd'hui des salariés au SMIC, Si vous passez, vous augmentez à 1600 euros net le SMIC.
Oui.
Comment fait-il ? Est-ce qu'il a des allègements de charges pour essayer de compenser la hausse ? Parce que là, vous parlez des très grosses entreprises. On est un département où on ne peut pas dire qu'on a des multinationales dans ce département. Et on a beaucoup d'artisans qui emploient des salariés. Comment ils font concrètement pour absorber ce coût du SMIC qui passerait de 1400 et quelques à 1600 ?
Oui, donc en fait, c'est ce que je vous dis, mais parce que la péréquation, elle va se faire au niveau national, c'est-à-dire on va soutenir
au niveau
local. Oui, mais le chef
d'entreprise, il va avoir un chèque à faire à la fin du mois, dès que vous passez, le chèque à 1600 euros, qu'est-ce qu'il a commencé ? Est-ce que ça ne va pas l'étrangler ?
Ben
est-ce
non,
que vous allez
c'est,
pas...
ça a été chiffré, et donc en fait, ce que je vous dis en fait en termes de péréquation, il y aura un soutien en baisse de charges de ces entreprises au niveau national, des plus petites entreprises, pour les aider à passer ce cap. Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, ce qui manque dans les petites entreprises ou les artisans, c'est que le carnet de commandes soit plein. Donc si on veut que ce carnet de commandes des entreprises, ben, il reparte, il redémarre, il faut donner les moyens aux gens de consommer, aux collectivités territoriales aussi, parce que le premier investisseur en France, c'est l'État, les collectivités territoriales. Donc il faut remettre aussi de la répartition de richesses dans les dotations globales de fonctionnement des communes, parce que c'est à partir des communes aussi qu'on va pouvoir travailler à la transition écologique, à la transition économique au plus près des territoires.
Alors, Madame Sorin, quelles seraient les premières mesures à prendre pour le Rassemblement national pour justement soutenir le pouvoir d'achat des Français ?
On s'est écarté de la question première qui était le coût de l'énergie. J'aurais mis revenir. Je pense que Madame Ferrer et vous tous ici, de temps en temps, vous allez faire votre plein en Espagne. Moi, je le fais. Pourquoi on fait son plein de carburant en Espagne ? Parce que c'est moins cher. L'Espagne fait pourtant partie de l'Europe. Donc, il y a deux axes qui peuvent être pris. Un, il faut cesser de racketter sans cesse les Français en mettant des taxes, des TVA, des sur-TVA, et même sur le carburant, une TVA, deux TVA, n'est-ce pas, dans le calcul. Et d'autre part, M. Bardella et son équipe proposent de renégocier avec l'Europe le prix de l'énergie. Je reviens à l'Espagne, par exemple. Ils ont bien réussi à sortir de ce carcan imposé, surtout par l'Allemagne, n'est-ce pas, leader, imposer le prix du gaz, indexer le prix sur les autres. Ça, on peut y arriver. On est persuadé qu'en renégociant, on peut y arriver. Donc moins de taxes, c'est la première mesure que nous prendrons, c'est de baisser la TVA.
Mais Madame Sorin, si vous baissez la TVA, ça fait moins d'argent et moins de rentrées fiscales pour l'État.
Tout à fait, vous connaissez déjà ma réponse. Des économies, l'arrêt du gaspillage, l'arrêt tout de suite du gaspillage. Nous allons employer des experts que nous avons, tels que M. Pratt, qui est le spécialiste, disons, de la fraude fiscale. Il y a énormément d'économies à faire dans ce pays. Et nous ne voulons plus, justement, de cette politique qui date de 1936, la politique de la pancarte agitée, augmentons les salaires. Il n'y a pas eu beaucoup d'imagination depuis cette époque. L'économie a changé. Ce n'est plus, comme le fait M. Macron, comme l'ont fait M. Hollande, et M. Hollande sera peut-être notre futur ministre de l'économie. Vous voyez l'épouvante que ça peut créer, puisque en politique, lorsque quelqu'un aussi important qu'un ancien ministre, un ancien président se présente, il y a du donnant-donnant. Tout le monde connaît les règles politiques. Quel poste va occuper ce monsieur s'il est élu ? Donc nous ne voulons plus cela. Pour nous, l'économie est un tout. C'est un tout. Donner des chèques aux entreprises, certes, si vraiment il y en avait besoin, mais ce n'est pas ça le but. Nous prenons le problème dans l'autre sens par rapport à la gauche. C'est-à-dire redémarrer l'économie d'abord en soutenant les petites et moyennes entreprises. Il faut d'abord baisser toutes ces charges qui plombent notre économie. Alors les économies, il y en a à faire tout de suite, vous les connaissez, elles font grincer des dents, mais il y a aussi cette manie de balancer des chèques.
Vous pouvez préciser peut-être quelques économies, quelques axes d'économie ? Précisez-les, s'il vous plaît. Les axes d'économie, puisque vous dites qu'on les connaît, mais c'est chaque parti finalement a ses solutions. Donc, quelles solutions vous mettez en avant et quel type d'économie vous feriez en urgence ?
Alors, une économie franco-française d'abord, une économie locale, redynamiser tout ce qui est économie locale en privilégiant le marché français. C'est la première chose à faire. Nous ne voulons plus de ces grands traités internationaux qui ont ruiné notre agriculture et qui vont la tuer à très court terme. Mais c'est valable pour toutes les autres branches de l'économie, que ce soit l'artisanat ou autre. Il faut arrêter d'importer de partout. Même nos médicaments, nous n'avons plus la mainmise sur nos médicaments. Tout a été vendu en très peu de temps par les deux précédents... Enfin, par le président précédent et celui actuel, on ne sait plus trop comment dire. Il faut revoir la chose de manière plus globale, disais-je.
Mais vous parliez de faire des
relocalisant.
De faire des économies, mais dans quel secteur, dans quel domaine vous souhaiteriez faire des économies?
Alors, ce que je viens de vous dire, arrêtez de balancer des chèques, le Maroc, certains pays d'Afrique, les cadeaux, et puis les contradictions des cadeaux. Je prendrai un exemple. Il s'en va, monsieur le président, en Amazonie. Il donne un chèque pour que l'Amazonie redevienne plus verte. Mais en même temps, il détruit le village près de Saint-Laurent de Maroni qui s'appelle le Prospérité pour couper des arbres et mettre des panneaux solaires. C'est vraiment un fourre-tout. Ce qui a été jusqu'à présent. Ça n'a ni queue ni tête. Donc on arrête de gaspiller l'argent, le chéquier des Français, on va le retirer à M. Macron. Et tout de suite, parce que ce n'est pas son argent, hein, c'est le nôtre. Et avec ce chéquier-là, ça va revenir vers les Français. Alors tout ce qui est dépenses sociales extérieures, et puis la fraude. Aller payer des retraites à des Marocains qui n'ont jamais mis le pied en France, ça
c'est pas possible. Payer à des ressortissants, enfin, qu'ils soient étrangers ou français d'ailleurs, si vous ne cotisez pas, vous ne pouvez pas toucher une retraite. C'est juste impossible.
Pensez-vous.
Le système est quand même conçu. Alors, on voit que les salariés ont bien du mal justement à faire valoir leur droit à la retraite. Ils doivent compter chaque mois de...
Je parle de fraude, je ne parle pas de cas légaux.
Oui, tout à fait, oui, de fraude.
Mais la fraude, il y en a, je vous assure.
Il y en a, mais est-ce qu'elle est aussi importante que ça?
Beaucoup de gouvernements ont essayé de s'y attaquer à la fraude en expliquant qu'effectivement il y a beaucoup d'argent qui passe à travers les mailles des filets du gouvernement. Et pourtant, sans avoir aucun résultat sur cette chasse au gaspillage et effectivement à tous ces gens qui trichent. Qu'est-ce que vous allez faire comment vous allez vous y prendre pour trouver ces tricheurs? Et effectivement, arrêter de leur donner des prestations dont ils n'ont pas le droit. Comment vous allez vous y prendre? Puisque quand on voit que même à la répression des fraudes, ils baissent chaque année le nombre de personnes pour faire les contrôles.
Mais même sur ce à quoi les gens ont droit, je sais que ça va crier. Mais moi, retraité, j'ai besoin effectivement de me faire soigner les dents. J'ai besoin, de revoir mes oreilles, mon audition. Tout le monde s'en aperçoit. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai cotisé depuis l'âge de 17 ans à la MGEN, et je n'ai pas les moyens de me faire soigner. J'ai accueilli un immigré chez moi en 2005, le 7 janvier 2005, un immigré camerounais, un faux immigré, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout de suite, il s'est fait refaire les dents, il a eu des lunettes. Bon, c'est ce genre de choses, nous, on ne veut
plus. C'est un peu facile, non?
C'est un peu caricatural.
Oui, un peu, voilà. C'est...
Non, c'est non, le c'est... quotidien, ça a été c'est... mon quotidien, c'est le quotidien des voisins. Si je vous disais, quand vous êtes dans une rue, vous connaissez vos voisins, vous voyez ce qui se passe dans les immeubles, mais si je vous racontais qu'il y a des gens qui, près de chez moi, touchent deux APL, sont femmes seules mais vivent maritalement, c'est toute la journée qu'on s'aperçoit que l'argent est gaspillé. C'est notre argent. Et ça, il faut que ça cesse.
Madame,
oui, madame, je voulais revenir justement sur un propos par rapport, vous parliez de l'Espagne. L'Espagne, ils ont augmenté de 30% le SMIC. Voilà, donc en fait, c'est faisable. Je veux dire, on n'est pas dans l'irresponsabilité quand on propose d'augmenter le SMIC, comme vous avez l'air de le dire. Et quand vous parlez de baisser la TVA, ça a été rappelé, quand vous parlez de baisser la TVA, ça va faire moins d'argent dans les caisses de l'État. Et l'argent dans les caisses de l'État, c'est aussi l'argent qui va permettre de financer nos services publics, notre hôpital, nos écoles, la justice, les prestations sociales, etc. Quand vous ponctionnez le budget de l'État, vous ponctionnez aussi ce qui va revenir en fait aux plus modestes de ce pays, notamment par le biais des services publics, puisqu'on sait très bien que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est une chose. La fraude fiscale, oui, il faut s'y attaquer. C'est 100 milliards quasiment par an qui échappent à l'impôt.
Robinet, les aides sociales,
qui échappent. Non, moi je parle de la fraude fiscale des plus riches de ce pays, puisque ça représente pas loin de 100 milliards par an. Donc il faut remettre en effet dans les finances publiques des agents qui aujourd'hui sont tout à fait capables, si on leur demande, d'aller récupérer cet argent qui revient en fait aux Français, tout simplement parce que ce sont soit des grands groupes, soit des particuliers, des riches particuliers qui ont décidé de faire rupture avec le système de répartition de la richesse que l'on a aujourd'hui, avec notre sécurité sociale, avec les prestations sociales qui permettent de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui une redistribution des richesses de façon équitable.
Vous avez entendu que les Français demandent plus de justice dans ce domaine. Mm-hmm. On ne veut plus être le guichet social de toute la Terre. Bon, évidemment, je vais être obligée d'être très très prudente sur mes mots, parce que demain je peux avoir tous les titres de journaux, mais je ne ferai que répéter ce que j'entends tous les jours. Il y a vraiment beaucoup d'abus dans ce pays, parce que, bon, il n'y a plus d'ordre depuis longtemps.
Beaucoup d'abus de la part de qui?
Des aides sociales. Non, je suis très, très précise, je reste dans mon cas.
Mais il semblerait même que les services sociaux soient quand même assez rigoureux dans les attributions des aides sociales. Donc est-ce que c'est pas un peu un cliché, un peu caricatural de dire qu'il y a... Enfin, il y aura sans doute qu'il y a des fraudeurs, mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce que vous l'avez chiffré justement du côté du Rassemblement National?
Pourquoi croyez-vous que le monde entier veut venir s'installer en France?
Parce que c'est le plus beau pays du monde, sans doute.
Ah ben alors pas pour nous, hein, pas pour les Français qui travaillent, qui galèrent, qui sont au chômage, pas toujours. Hein.
Vous n'allez pas me dire que c'est pas le plus beau
les
pays du monde, la France,
qui,
quand même.
Oui, c'est le plus beau pays, pas au sens où vous êtes en train de l'entendre.
Ben, je voulais revenir quand même sur la question du pouvoir d'achat, parce que en fait on a parlé tout à l'heure des retraités. Ce qu'on propose, nous, au niveau du Nouveau Front Populaire, c'est d'indexer notamment les retraites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sur l'inflation et les salaires aussi. Parce que ça permet de rattraper aussi ce pouvoir d'achat et d'avoir un niveau de consommation et de rétribution à la hauteur des besoins.
Il y a eu un rattrapage des retraites au 1er janvier 2024.
Oui, mais en fait, aujourd'hui, il faudrait l'indexer totalement sur l'inflation, ainsi que les salaires. Il y a une augmentation, vous en avez parlé tout à l'heure, du gaz au 1er juillet. Donc là, il faut revenir sur cette augmentation qui est absolument injuste. Et de la même manière, revenir sur les 10% d'augmentation de l'électricité qui a été validée par le gouvernement d'Emmanuel Macron.
La justification de l'augmentation du gaz, justement, c'est pour l'entretien du réseau qui a besoin d'investissements pour être modernisé et sécurisé. Est-ce que vous le remettez en cause ou comment vous pourriez financer finalement cette remise à niveau du réseau si il n'y a pas cette augmentation?
Ben, on a chiffré notre politique fiscale, notamment par le biais de l'impôt sur le revenu, avec 14 tranches d'impôt sur 14 tranches, donc pour un impôt plus progressif sur le revenu, qui ne touchera pas en fait les ménages, les revenus. Qui ne touchera pas donc les revenus en dessous de 4 000 euros net. Donc ce qui fait quand même qu'on va toucher les 10% les plus riches de ce pays par les mesures fiscales que l'on va prendre, et notamment les 0,1% les plus riches qui doivent participer en fait à l'économie de notre pays. Là, j'ai porté un graphique d'ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir conscience de, de l'évolution de la fortune des milliardaires en France. Hein. On est aujourd'hui avec une fortune à la tête du pays des 10% les plus riches. On est à 544 milliards d'euros. Donc avec Bernard Arnault notamment qui détient le record des 5 plus riches du monde. Donc voilà, il y a de la répartition possible à faire dans ce pays en termes de richesse. Donc on ne va pas ponctionner les classes moyennes et quand on parle de revenus en dessous de 4000 euros, c'est au-dessus. Enfin, on ne touchera pas les gens qui gagnent.
Pas pour un foyer, plus... hein, c'est par personne.
Oui, c'est par personne. D'accord. qui gagne plus de 4, qui gagne moins de 4000 euros par mois, je m'y mélange. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est quand même la majorité des Français aujourd'hui. Mmh.
En parlant de régime fiscal et des impôts, vous, le Rassemblement national, vous avez plusieurs d'autres propositions. Une part fiscale complète dès le deuxième enfant, alors qu'aujourd'hui, les deux premiers enfants, c'est une demi-part chacun. Hein. Supprimer les impôts sur les héritages directs. L'abattement de 100 000 euros pour les enfants pour les donations. Exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans.
Oui, c'était la proposition de base de Jordan Bardella, oui. Pour que les jeunes restent en France, pour qu'ils puissent sereinement entrer dans la vie et surtout s'installer. On parlait là de l'installation, vous parliez de l'installation des agriculteurs, ou le prolongement de leur installation. Mais puisque nous sommes ici dans un milieu agricole, c'est important de le souligner. Il faut permettre aux jeunes qui veulent reprendre la ferme de le faire. Ce n'est pas là-dessus que l'État a à faire.
Ce que vous dites, quand vous dites, en fait, ne pas imposer les jeunes de plus de 30 ans, ça veut dire qu'un ouvrier de moins de 30 ans, ça veut dire qu'un ouvrier de 29 ans, il va payer des impôts, alors qu'un trader de 31 ans n'en payera pas.
Il faudra bien.
Il y a quelque chose qui ne va pas quand même.
Il faudra bien un autre fixer ça un tient pas âge et bon. Pour ce qui est de la retraite, vous savez que.
Au niveau où vous parliez de répartition de la richesse, là, on n'y est pas du tout.
Mais l'argument que j'ai entendu parfois, que j'ai entendu avec des exemples délirants, vous disiez « Oh, un chauffeur de bus, par exemple, etc. » Non. Le jeune qui a fait des études longues, il fait des études jusqu'à 25 ans. Hein. Il ne lui reste pas beaucoup de temps pour s'installer. Après, il faut l'aider à pouvoir s'installer, disons, entre 25 et 30 ans.
Ah non, mais là vous parlez d'impôt, de supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Ça ne tient pas la route en termes d'équité, en fait, ce que je vous dis. C'est un ouvrier qui a 31 ans, en fait, il va, lui, payer des impôts, et celui qui est trader et qui a 29 ans, il ne va pas en payer. Donc, ça, en termes d'équité, en termes, eh ben, c'est ce que vous dites, hein, puisque vous avez annoncé que moins de 30 ans, en fait, ne payeront pas d'impôts sur le revenu. Mais c'est important d'avoir une équité en termes de fiscalité.
Pourquoi mais d'ailleurs
il faut que ce soit juste.
C'est pareil.
Pourquoi quelqu'un qui pardon a, pourquoi cette mesure. Pourquoi quelqu'un qui a l'âge et n'ont pas de revenus. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait gagner beaucoup d'argent parce qu'il réussit, comme vous dites, trader, où on peut gagner de l'argent. Le fait qu'il n'ait pas 30 ans, il serait exonéré. Pourquoi cette mesure. Pourquoi
parce
30 ans
que,
et pourquoi cette
pas,
mesure.
Ce n'est pas attractif. Ce n'est pas attractif de s'installer dans ce pays, c'est difficile. Donc on veut garder toute une partie de notre jeunesse qui vise vers l'excellence.
Et donc, si Jordan Bardella venait à devenir Premier ministre, en fait, il ne paierait pas d'impôt sur le revenu, puisqu'il a 29 ans, c'est ça?
C'est ça, oui. On peut pas
en fait, pour les jeunes, pour les jeunes, au nouveau Front populaire, nous avons une mesure qui a été chiffrée et qui est la garantie jeune pour les jeunes de 18 ans à 25 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui entre sur cet âge-là, voilà, sur cette tranche d'âge, il y a aucun soutien, ils n'ont pas le droit au RSA. Et c'est pour cela qu'on retrouve aussi notamment des étudiants à l'aide alimentaire, ce qui est totalement inadmissible.
Donc, enfin,
aujourd'hui, nous proposons une garantie jeune qui équivalente au seuil de pauvreté, 1150 euros, qui sera en fait attribuée à ces jeunes qui font des études et aujourd'hui pour remettre aussi de l'équité, parce que quand vous avez des parents, parce qu'aujourd'hui ça repose quand même beaucoup sur la famille, quand vous avez des parents qui peuvent financer des études aux jeunes et bien qui n'ont pas besoin de travailler, ça met en fait une inégalité avec ceux dont les familles, souvent qui sont au SMIC, avec un SMIC trop bas, comme je l'ai dit, ne peuvent pas les soutenir. Et donc, c'est des jeunes qui vont devoir aller travailler et qui se retrouvent aussi parfois à l'aide alimentaire. Donc, il faut remettre de l'équité pour ces jeunes qui sont aujourd'hui, pour certains, en grande difficulté. Et cela dès 16 ans, puisque certains sont en formation professionnelle.
Vous n'imaginez pas la misère de certains étudiants.
Si, je la connais, je l'ai vue.
Vous êtes tellement déconnectés du peuple.
Pas du tout. Au contraire, je suis allée les rencontrer, j'ai discuté avec eux. J'ai même soutenu et aidé certains qui avaient des difficultés de logement dans leur recherche de logement. Donc je suis députée sortante. J'ai aussi un bilan de 2 ans, qui est un peu court, mais j'ai un bilan. Et avec mes collaborateurs, on a été aux côtés justement de certaines personnes qui sont venues à notre rencontre en grande difficulté. Donc je n'ai pas de leçon de recevoir de ce côté-là. Merci.
Voilà, des phrases. On va clôturer là le premier débat.
On entend ça à chaque débat, c'est pas grave.
On va clôturer là le premier débat sur le coût de la vie. Vous êtes à peu près à égalité. Allez, Madame Sorin, vous êtes à 13 minutes 13 et Madame Ferrer, vous êtes à 14 minutes 16. Bon, on est à peu près à quelque chose de près. Nous y arrivons. Merci d'ailleurs de respecter ce temps de parole. On va parler d'un sujet qui est très important aussi pour ce département, qui est un département rural, hein, vous l'avez dit, tous les deux vous en convenez, avec la désertification des médecins. De plus en plus, on a du mal à trouver un médecin. Certains médecins vont partir à la retraite, ne seront pas remplacés. Les nouveaux ne peuvent plus en prendre. Ça va devenir vraiment un vrai problème. Et puis, ce projet d'hôpital commun pour tout le département, un hôpital unique pour tout le département des Hautes-Pyrénées. On commence à s'apercevoir que des personnes souhaiteraient avoir un hôpital comme un neuf, mais garder quand même les structures d'urgence de proximité. Quel est votre regard et quelles sont les mesures que vous prendriez pour à la fois refaire venir des médecins dans ces déserts médicaux? Alors, vous avez plusieurs propositions, certaines en obligeant, d'autres en donnant des salaires supérieurs aux médecins qui s'installeraient dans des déserts médicaux. Vous avez des solutions à peu près équivalentes.
En termes de santé, en fait, on a besoin de reconstruire nos services publics, notamment les plus cruciaux, la santé, l'éducation. Donc en termes de santé, donc l'hôpital aujourd'hui, il a été totalement détricoté. On s'en rend compte, des services fermes, faute de personnel, faute de médecins. Donc des services d'urgence aussi qui partout sur le territoire français ont fermé depuis maintenant plusieurs années. Sur notre territoire, c'est le service des urgences de Bagnères qui a fermé déjà depuis la nuit, depuis plus de 2 ans. Il est fortement menacé de fermer totalement dans la journée. Donc on n'aura plus de services d'urgence à l'hôpital de Bagnères, ce qui met en péril aussi des services qui dépendent de ces urgences-là. Ça met en péril le SMUR aussi. On a besoin de reconstruire cet hôpital public. Moi, je me suis positionnée dès 2022, en fait, lors de ma campagne des législatives, pour garder en fait nos hôpitaux publics de Tarbes et de Lourdes pour les rénover. Aujourd'hui, il y a ce projet d'hôpital unique qui vient remplacer en fait 2 hôpitaux, et j'ai toujours dit que pour moi le progrès aurait été d'en avoir un troisième et pas de remplacer 2 hôpitaux par un. Et c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui, avec moins de lits, de toute manière, on sait, des difficultés aussi de financement, puisqu'il nous a été prévu, il a été prévu par Bruno Le Maire, 10 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici cette fin d'année, 20 milliards l'année prochaine et jusqu'à 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. 50 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Donc c'est en termes de fonctionnement, il y a quand même un gros souci ensuite pour faire fonctionner nos hôpitaux.
Entre Tarbes et Lourdes, il y a quand même un très fort engagement public, un très fort engagement de l'État, avec des financements importants.
L'engagement qui a été fait, il a été fait déjà depuis depuis plusieurs années. Et donc, il va falloir aussi reconsidérer, parce que le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, le coût de la construction du bloc, parce qu'il faut savoir aussi que, que le financement qui a été proposé par Emmanuel Macron, c'était le bloc hôpital. Il faut mettre en place les réseaux aussi de raccordement, électricité, gaz, transport, assainissement. Et ça, ce sont des millions qui vont devoir être payés par les collectivités territoriales. Et on sait aujourd'hui les difficultés que rencontrent les communes pour déjà financer leur propre service public ou leurs propres investissements. On va leur demander de faire des sacrifices pour payer cet hôpital, qui va être éloigné d'ailleurs des centres-villes de Tarbes ou centres-villes de Lourdes. Donc il faudra mettre en place des transports. Quel type de transport
Est-ce qu'il sera accessible par vélo ou pas? Tarbes et Lourdes ont du mal à attirer des soignants. Avec un nouvel hôpital, avec des équipements ultra modernes, est-ce que justement ce n'est pas un facteur d'attractivité pour le territoire et pour attirer de nouveaux patients, enfin de nouveaux, pas patients, si, qui pourraient aller même un peu au-delà des Hautes-Pyrénées, qui pourrait toucher peut-être le sud du Gers et une partie du Comminges. Mais pour attirer de nouveaux soignants, il faut avoir aussi des équipements.
Ça, c'est l'argument qui est mis en avant, l'attractivité. Mais l'attractivité, il faut l'avoir déjà par le métier, par le salaire. On sait aujourd'hui qu'il y a une perte de sens dans le travail des personnels hospitaliers. Il y a besoin d'un recrutement massif, parce qu'il y a une fuite aujourd'hui des soignants, tout simplement parce que les salaires ne sont pas attractifs, parce que les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Donc c'est ça qu'il faut remettre de la confiance dans ces métiers. Si on ne fait pas ça, on aura beau avoir un hôpital neuf, on aura des services qui seront fermés faute de soignants, faute de médecins. Donc remettre un recrutement massif des personnels, et très rapidement avoir une conférence sur l'hôpital public. On sait aujourd'hui, enfin, nous on propose qu'il ne faut pas, être à plus de 30 minutes par la route d'un service public. Donc c'est valable pour les hôpitaux, c'est valable pour l'école, c'est valable pour tous les services publics dont les habitants ont besoin. Et avec cet hôpital unique, ça ne sera pas le cas. Hein. Quand vous êtes au fin fond de la vallée de Gavarnie, ça va être difficile d'avoir accès à un service d'urgence 24 heures sur 24 en moins de 30 minutes.
Madame Sorin, quelle est votre position sur ce projet d'hôpital unique ou commun entre Tarbes et Lourdes et qui ferait office d'hôpital départemental ?
C'est déjà une problématique qui est ancienne, puisque lorsqu'il y avait les élections municipales à Tarbes, nous évoquions sans cesse les dangers que cela pouvait avoir sur les villes et de Lourdes et de Tarbes. On nous regardait avec de gros yeux, particulièrement M. Trémet, je me souviens. Bon, c'est bien si on revient un peu plus de sagesse maintenant, au moins en posant la question. Je suis étonnée quand je rentre dans certaines mairies, comme à Lannemezan, c'est maintenant qu'il y a un questionnaire à remplir pour savoir si on est pour ou contre. C'est très drôle, ça. C'est-à-dire, on imagine quelque chose de gigantesque, avec des guillemets « européens », et puis après, on demande aux gens « qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, c'est bien quand, quelquefois, un politicien peut faire son mea culpa. Les différents gouvernements qui avaient un numerus clausus extrêmement sévère ont-ils fait leur mea culpa ? Ça illustre aussi la manière dont la France a été gouvernée. C'est-à-dire, on enlève quelque chose pour aller mettre au milieu de nulle part...
C'est pas tout à fait nulle part, c'est entre Tarbes et Lourdes, enfin, et à côté de l'aéroport et au bord de la voie rapide.
Les vieux qui habitent en haut des coteaux ou en haut de la Barousse, c'est au milieu de toute part. Hein. Ils nous demandent là où ça se trouve, là. Alors bon. Alors on a déjà des difficultés pour se soigner qui sont des difficultés de transport. Ça, c'est essentiel. La personne âgée ne peut pas se transporter comme ça, aller voir un spécialiste à l'hôpital, aller faire des examens. Elle a déjà énormément de problèmes de transport. J'insiste là-dessus. Parce qu'on mélange un petit peu tous les problèmes.
On va en parler.
Alors, est-ce que c'est en mettant à l'âne que celui qui habite, en haut des coteaux, il va pouvoir venir à l'âne comme ça? Et comment? Mais comment? Et puis bon,
Concrètement, vous êtes opposé à ce projet
d'hôpital communautaire. Ah, mais on l'a toujours été. Je vous rappelle quand même que c'était déjà des débats lors des élections municipales avec M. Trévège.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour les hôpitaux
à l'époque, c'est toujours après coup, il fallait à l'époque remoderniser l'hôpital de Tarbes, renforcer l'hôpital de Lourdes.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui,
Le constat, vous le posez, il y a un problème. Quelle est votre solution si demain vous êtes à la tête ?
Je pense qu'on va arriver peut-être à renoncer, j'espère, à ce qui est une construction pour l'ego. Ça leur fait plaisir de dire j'ai construit le plus moderne hôpital de... Peut-être qu'on va revenir à quelque chose de plus simple, de plus local. Relocalisons les moyens médicaux, et à Tarbes, et à Lourdes, et surtout, moi je suis pour la construction et le développement des maisons médicales. Maintenant, contrairement peut-être à la forme d'application politique que nous opposons, c'est pas des replâtrages, des sparadraps par-ci, par-là. Il faut avoir une vision globale de la France. C'est en remaillant le tissu rural, en réveillant de leur mort programmée les petits villages qu'on y arrivera. Il faut garder la pharmacie, il faut garder donc et développer les maisons de santé, mais avant tout, il faut garder l'école, il faut garder la poste et il faut garder le guichet de banque. Là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et à présent, vous pourrez dire, les gens peuvent aller se soigner à la maison de santé.
Une constatation, c'est que l'hôpital de Tarbes est en très mauvaise santé. Le bâtiment, il est tard.
Ouais.
Donc, quel est votre regard, vous, sur la santé des Hauts-Pyrénéens, des Pyrénéens ? Est-ce qu'il faut en construire un nouveau sur Tarbes et garder Tarbes et Lourdes, Bagnères, faut-il faire autre chose ?
Il ne faut pas faire autre chose. Il faut rester ancré là où nous sommes. Il faut rester ancré à Tarbes.
Mais avec cet hôpital tel qu'il est aujourd'hui ?
Il faut le rénover. Il faut le rénover grandement.
Vous êtes donc pour la rénovation de l'hôpital de Tarbes ?
Absolument.
En maintenant l'hôpital de Lourdes de Bagnères ?
Absolument. Absolument.
D'accord. Les urgences, c'est qui aujourd'hui risquent de fermer à Bagnères ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous révulse ?
Ah. Tout dépendra de la politique, justement de la politique de la santé qu'on va appliquer, hein. Pour qu'elle ne ferme pas, eh bien, il faut revoir entièrement le système, c'est sûr.
Les médecins.
On parle
de l'hôpital.
Les centres de santé, c'est vrai qu'il y a des collectivités. On en parlait il n'y a pas très longtemps, réunion publique. Puis j'ai organisé une réunion publique à Aurélien sur ce sujet de l'hôpital et des services de santé à la population. Il y a un centre de santé à Aurélien, avec des salariés, des médecins salariés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait développer sur tout le territoire pour qu'il y ait un maillage, parce que le problème, c'est la régulation aussi de l'installation des médecins. On a des endroits qui sont surdotés en médecins. Et d'ailleurs, je signale que le rassemblement, pas dans les Hauts-Pyrénées, mais en France. C'est pour la répartition. Je parle de la répartition. D'accord. C'est vrai qu'on a besoin.
Le Pays Basque est bien loti.
On a des endroits. Alors, c'est à peu près 10% du territoire qui est surdoté en médecins. Il y avait un amendement qui avait été proposé d'ailleurs par un député, je crois, du MoDem, qui avait proposé d'interdire l'installation de nouveaux médecins dans ces endroits surdotés, sauf s'il y en a un qui part à la retraite. Hein. Et donc il restait quand même 90% du territoire. Et le Rassemblement national, c'est totalement opposé, en fait, à cet amendement. Ils ont voté contre. Donc après, vous me dites que vous voulez défendre la ruralité. Mais là, c'était l'occasion de défendre la ruralité parce que ça aurait permis de répartir les médecins un petit peu plus sur les zones moins dotées. Et ils se sont opposés. Ils ont voté contre. Donc ça fait partie des contradictions et de la colonne vertébrale politique très, très tordue que le Rassemblement national porte aujourd'hui. Il faut remettre en fait des médecins, les aider à s'installer aussi aujourd'hui et proposer aussi peut-être un corps de médecins généralistes fonctionnaires de manière à mailler le territoire, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des déserts médicaux, il y a des personnes qui sont obligées de faire 40 km pour une consultation médicale, soit chez un médecin généraliste, soit chez un spécialiste, avec des délais d'attente qui sont beaucoup trop longs. Donc il faut sortir il faut en finir quoi, avec ces déserts médicaux. Et là, il faut prendre une mesure importante en termes de maillage. Pareil avec les dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, pour avoir fait du porte-à-porte auprès des habitants, ils nous signalent cette injustice aussi des dépassements d'honoraires. Qui les pénalise parce que certains n'ont pas les moyens de payer un surplus pour une opération ou pour une consultation.
Vous venez souvent à Trie-sur-Baïse. La maison de la santé va très bien. Sans cesse, de nouveaux médecins spécialisés viennent s'y installer.
Mais moi, je parle de centres de santé avec des salariés. Hein.
Heureusement que celle de Trie-sur-Baïse... permet aux coteaux d'absorber les misères de nos personnes isolées.
Il y a un consensus sur le projet de l'hôpital commun. Vous êtes tous les deux donc opposés, on peut le dire.
Alors, on n'a pas tout à fait la même manière de financer aussi, oui. Parce que là, Madame Sorin nous en a parlé dès le départ, elle est intervenue en parlant d'économie, qu'il fallait faire absolument des économies. Donc les économies, forcément, si vous voulez en faire, c'est celle dont vous parlez, vous, c'est sur les services publics. Hein. Donc à un moment donné, il faut être cohérent et dire la vérité aux Français et aux Pyrénéens en leur disant, finalement, au bout du compte, on n'aura pas les moyens de financer votre hôpital et il faudra payer un peu plus cher les consultations ou l'hôpital parce que on aura vidé les caisses de la sécurité sociale puisque vous voulez supprimer notamment les cotisations sur les salaires pour faire augmenter le salaire net. Donc si vous voulez augmenter le salaire net des ouvriers, des salariés en baissant les cotisations sociales, forcément vous allez assécher les caisses de la sécurité sociale et vous ne pourrez plus payer l'hôpital public.
Hein. Madame Sorin, alors...
J'ai répondu là-dessus. Il y a des priorités. Il y a des priorités, on ne peut pas tout mettre dans un fourre-tout. Telle économie ne pourra pas aller à telle autre chose inutile, à telle chose inutile. Vous savez bien que nos priorités, c'est d'abord l'éducation, ça je vous l'ai dit. L'éducation, l'agriculture, la santé, mais il y a des priorités. La maison de jeunes du quartier,
la priorité, c'est de revaloriser les métiers. C'est revaloriser
la maison culturelle,
les métiers du médico-social, les métiers de tous ces agents hospitaliers dans nos hôpitaux publics. C'est ça l'urgence, revaloriser
Alors,
ces métiers et les salaires.
Que pour le bien de la France, les prochaines élections municipales, qui sont lointaines hélas, mais enfin qui pour d'autres sont un peu plus proches, les prochaines élections municipales seront très fondamentales. J'espère qu'elles seront surtout moins politisées. Qu'on reviendra un peu plus de sagesse et après avoir tant souffert, qu'on écoute enfin le peuple et que le peuple ne vote plus pour des gens, pour leur étiquette politique, mais pour leur pragmatisme.
J'aimerais qu'on termine ce dossier sensible sur la santé, sur la fin de vie. On a besoin, je crois, de soins palliatifs, d'unités de soins palliatifs. Il y a 10 lits dans ce département qui ont été délocalisés de l'Ormeau pour partir à l'Arbisan, à Bagnères-de-Bigorre, à MGEN l'Arbisan, qui a récupéré donc 10 lits avec une unité de soins palliatifs. Il y a une unité mobile de soins palliatifs. Parlons un peu de la fin de vie. Ou si vous êtes demain à la tête et si le projet de loi qui modifie la loi Leonetti vers la question de l'euthanasie, du suicide assisté, et la manière dont on va y arriver, quel serait votre vote à vous, Madame Ferrer, sur cette question précise, s'il fallait revenir sur la loi Leonetti et donc proposer en France l'euthanasie ou le suicide assisté?
Alors c'est un sujet très important puisqu'il était en discussion, il y a un projet de loi qui était discuté juste avant la dissolution, oui. Qui était en train d'être discuté à l'Assemblée nationale parce que en fait c'est une demande aussi de l'opinion publique. D'aller plus loin aussi que la loi Leonetti sur ce sujet du suicide assisté, de l'euthanasie, avec tout ce que ça implique en termes de débat, parce qu'il y a eu une grosse discussion pour savoir en fait les critères aussi sur lesquels on devait prendre pour pour pouvoir bénéficier de ce suicide assisté ou de l'euthanasie. Donc il y a eu un débat notamment sur la question de l'accompagnement, savoir si un proche pouvait être pouvait aussi participer à cette à ce suicide assisté. Enfin voilà, il y a eu des débats très très intéressants à l'Assemblée nationale, et mon groupe parlementaire y participe activement, et nous avons reçu, moi j'ai reçu à ma permanence des associations, et je suis pour se donner plus de marge de manœuvre aux personnes en fait qui sont soit sur le pronostic vital engagé, soit qui ont eu des accidents dans la vie qui restent dans une situation qui, à un moment donné, font qu'ils demandent cette fin de vie. Parce qu'il n'y a pas que la maladie. Hein, dans le pronostic vital annoncé, ben, on parle de maladie, mais il y a aussi tout ce qui peut être accident de la vie, accident de la route notamment, je pense. Et donc, nous sommes prêts à voter un texte dans ce sens-là. Oui, tout à fait.
Madame Sorin, quelle est votre position sur ce sujet ?
C'est effectivement un sujet extrêmement sensible parce qu'il touche à ce que l'être a de plus profond aussi dans ses croyances, n'est-ce pas ? Il est d'abord intime, ce sujet. Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté à un être humain de sa propre vie. Mais je le dis à titre personnel. Mais ça rejoint quand même, en gros, ce que pense mon groupe. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque personne, comme elle a son groupe sanguin dans son portefeuille, puisse avoir apporté dans son portefeuille ou sur elle ou chez un proche en qui elle a confiance, ses volontés. Le garde-fou essentiel, c'est que la personne ait demandé ce soin palliatif. On est conscient que ça peut avoir des dérives. Ça peut avoir des dérives lorsqu'une famille veut peut-être mettre main basse sur un héritage ou autre, je veux dire les choses comme elles sont. Maintenant, celui qui veut vraiment garder sa dignité jusqu'au bout, et ce sujet, croyez-moi, m'est sensible, comme certainement chacun d'entre vous, nous avons notre expérience de vie. Personnellement, j'ai dans mon portefeuille une adresse où je suis obligée d'avoir un relais en Belgique si je veux avoir accès à cette fin de vie digne, que vous appelez euthanasie, il faut que j'aille en Belgique ou il faut que j'aille en Suisse. Parce qu'il y a eu, hélas, trop de médecins inquiétés. Ça a été là aussi un sujet qui a été pris plus par l'aspect scandaleux ou l'aspect médiatique. Donc, je le reprends. Les points, c'est que la personne demande vraiment ces soins palliatifs à l'avance. On ne sait pas quand on aura un accident, hein. On ne sait pas quand on va tomber, quand on n'aura plus son cerveau. Ça a été le cas de mon frère, par exemple. Vous savez, il y a des maladies agricoles. Il y en a une qui s'appelle le glioblastome, qui est la maladie des vignerons. Eh bien, c'est tellement rapide que le cerveau n'est plus apte. Et ce sont des choses atroces. Si on n'a pas dit à l'avance, à ce moment-là, il est déjà trop tard.
Ben, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées.
Et que c'est douloureux pour la famille de prendre...
Oui, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées que chacun d'entre nous pouvons aujourd'hui remplir. C'est un document à remplir et à laisser à son médecin éventuellement traitant.
Mais il faudrait en faire vraiment quelque chose. Voilà. Je dis
mais,
pas
mais votre groupe s'est opposé, madame.
Un dossier essentiel que la carte d'identité.
Votre groupe s'est opposé au projet de loi de fin de vie qui a été proposé. Avant la dissolution.
Oui, non, blanc, noir, rouge,
je le vois, pas, moi je suis à l'Assemblée, donc si
ça.
Vous voulez, je vois ce qui se passe. Donc,
on peut s'opposer
les députés
à
du Rassemblement
parce qu'on veut qu'elle soit amendée. Vous pouvez comprendre
oui, non,
ça,
mais
vous qui êtes.
Les députés du Rassemblement national s'opposent.
Je suis tous les débats. Mais on peut s'opposer à une loi parce qu'elle n'est pas encore. Ça a été le cas pour plusieurs choses d'ailleurs que vous avez.
Ah ben, les articles 5 et 6 sont passés.
Quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on a des raisons. On ne dit pas non histoire de dire non. J'essayais de vous expliquer pourquoi. Il
oui,
faut
là,
qu'il y ait des garde-fous.
De
si on veut être pour la fin de vie digne, on ne peut pas dire « je suis pour la fin de vie digne » et puis basta. Non, il faut des garde-fous. comprenez ?
Ah ben, bien sûr.
Les soins palliatifs sont des garde-fous. Oui, parce que quelqu'un qui aujourd'hui est en souffrance peut demander la mort, mais si on arrive à lui soulager la douleur, on revient 48 heures après, il a peut-être changé d'idée. Donc ça peut venir là-dessus. Les soins palliatifs sont importants.
Il va falloir continuer à débattre et à trancher.
On n'a pas bien saisi. On comprend qu'on peut l'amender, mais quel est votre regard ? Si cette loi revenait telle qu'elle est, vous la votez ou la votez pas ?
Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je pense qu'il va falloir continuer, prolonger cette loi, l'amender, parce qu'il faudra deux ou trois garde-fous. Que ce soit vraiment la volonté de la personne.
On va arriver au terme de cet entretien. Alors, il y avait le dossier ruralité, mais on en a quand même pas mal parlé à travers plusieurs sujets.
On n'a pas trop parlé de l'agriculture, en fait.
De l'agriculture, de la ruralité, c'est vrai.
On pourrait accorder quelques instants.
Pour la ruralité.
Parce que le revenu des agriculteurs, c'est un sujet.
Quelles seraient les mesures, justement, pour améliorer le revenu des agriculteurs ?
On a proposé des prix planchers. Donc, ça veut dire mettre un revenu aux agriculteurs qui respecte le coût de production, qui prend sur les marges de la grande distribution, qui aujourd'hui, en fait, a vu justement des grands groupes de la distribution, de la grande distribution qui se sont beaucoup enrichis, notamment pendant le Covid. Donc, on propose de mettre en place une taxe sur ces super profits des grands groupes de la grande distribution, entre autres, et des grands groupes aussi énergéticiens qui ont fait énormément de marge et de profit pendant ces dernières années. Nous voulons aussi en finir avec les traités de libre-échange, et notamment, je pense au Mercosur qui est en train d'être discuté. Il faut arrêter les négociations et relocaliser la production, regarder les besoins que nous avons en termes alimentaires, localement, et produire ce dont on a besoin sur notre territoire, parce qu'on a une agriculture riche, on a des terres riches en France. On peut produire l'alimentation dont on a besoin, redonner les moyens aux collectivités territoriales de financer la cantine, parce que la cantine doit être gratuite. On porte une école gratuite pour toutes et tous. Donc financer la cantine gratuite avec des produits locaux, dans les marchés publics aussi, faire en sorte de favoriser les produits locaux, réinstaller des maraîchers, réinstaller des paysans boulangers, par exemple. Ça, c'est vrai que le pain, c'est quand même un produit de base qui, aujourd'hui, pourrait être tout à fait produit localement avec des céréales locales. Il y a besoin, oui, que les agriculteurs puissent aujourd'hui vivre dignement de leur métier, faire en sorte que les retraités aussi, les agriculteurs retraités, n'aient plus une retraite en dessous, pour une carrière complète en dessous du SMIC, parce qu'aujourd'hui, on a des retraités dans l'agriculture qui sont extrêmement pauvres, et remettre une alimentation, remettre en place des cercles vertueux avec une agriculture qui aussi est moins polluante pour les sols, moins polluante pour l'eau, et une alimentation de qualité, justement, qui va faire en sorte que les gens sont en meilleure santé.
Madame Sorin.
Alors, très rapidement, sur deux ou trois points, nous en avons débattu hier matin beaucoup avec Mme Ferrer, nous sommes d'accord. Le localisme, arrêter les grands échanges internationaux qui pénalisent et qui tuent notre agriculture.
Vous avez voté contre en Europe, contre les traités de libre-échange.
Sur l'idéologie même, je voudrais dire que là où vraiment nous ne sommes pas d'accord, et je voudrais exprimer l'angoisse, qui est une angoisse politique de nos agriculteurs, c'est si ce gouvernement d'extrême gauche arriverait au pouvoir. Il arrivera au pouvoir avec les Verts, il arrivera avec Madame Tondelier qui va finir de tondre tout le monde. On veut leur rendre, nous, leur liberté d'agir, assez de lois, assez de contraintes, ils n'en peuvent plus, le droit de chasser, le droit de la prédation, le droit d'exterminer des nuisibles, excusez-moi pour le mot, le gros mot, mais laissez aussi la liberté de la longueur de votre fumier, de la largeur de votre cage à poules, ça suffit. Moi, les agriculteurs que je connais, après leur longue journée de travail, ils ne peuvent manger que sur le coin de la table, tellement il y a des papiers étalés, et les numéros des vaches, et les numéros des veaux, et le sanitaire, ce n'est plus vivable. Donc on voudrait leur rendre leur liberté, arrêter ces contraintes, revoir aussi le fonctionnement de l'Europe vis-à-vis de nos agriculteurs. La France voulait, sous Macron, être le bon élève de l'univers, là aussi, encore une fois. Et à force de vouloir être le bon élève, nous avons réussi vraiment à baisser notre empreinte carbone. Mais si jamais les Verts reviennent au pouvoir, il y aura des conséquences énormes. Quel poste allons-nous leur donner ? Parce que nous sommes francs en disant un tel sera Premier ministre. Mais les autres, alors les agriculteurs sont très angoissés pour leur avenir. Je pense qu'ils voteront pour autre chose que ce qui leur a fait tant de mal.
Voilà, deux mots sur les agriculteurs. Une minute chacun pour terminer.
Alors, c'est Madame Sorin qui va commencer et Madame Ferrer qui va clôturer, comme l'a indiqué le tirage au sort qui a eu lieu en tout début de débat. Donc, Madame Sorin, vous avez une minute pour conclure et vous adresser aux électeurs.
Bon, alors je pense que les électeurs de ce territoire n'ont pas forcément le temps de s'accrocher derrière leur Twitter, leurs réseaux sociaux, leur YouTube, etc. Et pas trop non plus derrière cette télévision d'État qui est insupportable parfois, avec la propagande. Donc je pense qu'ils ne sont pas très sensibles aux insultes et j'espère que ça ne les découragera pas, ce climat détestable que nous avons eu pendant ces élections, où vraiment c'est les problèmes de fond ont été esquivés en faisant des combats personnels. Donc je pense que les agriculteurs vont retrouver le bon sens paysan, ce bon sens paysan qui fait que 2 et 2 font 4 et qu'on ne va pas leur raconter que le Père Noël c'est le 8 juillet. Ça n'existe pas.
Merci beaucoup Madame Sorin. Madame Ferrer, une minute.
Alors, le dimanche 7 juillet, donc les électrices et les électeurs sont appelés à retourner aux urnes. Et moi je dis pas une voix de plus, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Ne laissons pas ce parti raciste et xénophobe à la tête du pays. Ce serait une folie pour notre République, pour nos systèmes de solidarité, pour nos systèmes d'entraide. Donc faites le choix d'une société apaisée et qui ne fait pas le tri entre les personnes étrangères ou pas, nous avons besoin d'une harmonie entre nous et avec aujourd'hui notre environnement, puisqu'on a des enjeux très importants, notamment le dérèglement climatique auquel le Rassemblement national n'apporte aucune réponse.
Merci beaucoup. Merci pour ce débat d'entre les deux tours. Résultat, donc, les urnes parleront dimanche soir. Résultat autour de 20h. Merci à tous les deux. Merci à Arnaud Paul, du groupe La Dépêche, aussi, d'avoir animé avec nous ce débat.
Merci à Radio Présence de votre accueil. Et merci aux deux candidates d'avoir été de bonne tenue.
Merci à vous.